Terre, le téléphone sonne.
Le jeu Pokémon Go lancé par la firme Nintendo, 75 millions de personnes à travers le monde l'avaient déjà téléchargé sur leur smartphone en 3 semaines. Alors vous attrapez avec votre téléphone des bestioles qui apparaissent à l'écran quand vous marchez en ville, en campagne, chez vous, partout, y compris dans des endroits où vous n'êtes pas censé jouer, car oui, c'est un jeu. N'empêche que son immense succès, l'attente et la ruée qu'il suscite sont peut-être le symptôme de quelque chose d'important, de grave, diront certains, pour notre société. Le virtuel, c'est un fait, s'installe de plus en plus loin, de plus en plus longtemps dans notre quotidien. L'écran, prolongement indissociable de notre corps, de notre cerveau, alors chasse virtuelle, ami virtuel, voyage virtuel. Est-ce qu'au milieu de tout ça, on n'en oublie pas tout simplement de vivre ? Est-ce une chance ou une menace pour notre société ? Rendez-vous compte, Pikachu, catalyseur de Big Bang civilisationnel. Pourquoi ce désir, ce besoin de virtuel ? Comment y avez-vous succombé ? Comment parvenez-vous à y résister ? Quelques réponses avec vous ce soir sur France Inter. Rejoignez-nous jusqu'à 20h. Nos invités vous écouteront, vous répondront, vous nous appelez au 01 45 24 7000. Mais vous pouvez aussi nous laisser un message sur franceinter.fr, le site internet de l'émission, et via Twitter, hashtag Telson. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
En studio, Vanessa Lalo, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez franche, est-ce que vous avez croisé un bulle bizarre, un salamèche sur la route de ce studio ?
Non, pas à proximité.
Et vous en êtes déçue ?
Très triste.
Vous êtes psychologue, clinicienne, spécialiste des usages numériques. Antonio Casilli est également près de moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à Télécom Paris Tech en humanité numérique. J'ai bien dit humanité numérique. Ce sont donc des mots qui sont compatibles. C'est pas un oxymore.
Tout à fait.
Et vous êtes par ailleurs chercheur au centre Edgar Morin de l'école des hautes études en sciences sociales, une école où notre troisième invité a étudié, le philosophe Bernard Stiegler. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous par téléphone, vous êtes spécialiste des mutations de notre société liées au développement technologique et notamment numérique. Pour lancer le débat, premier tour de table, on aura, je vous le promets, toute l'émission pour développer. En quelques mots, 75 millions de Pokémon Go téléchargés en 3 semaines, ça veut dire quoi de notre société et de son état mental ? Vanessa Lalo.
C'est un reflet de notre société, hein, je pense, en premier lieu. Beaucoup de personnes s'adonnent à des usages très multiples, hein, des smartphones, des jeux vidéo. Là, on se rend compte finalement que Pokémon génère énormément d'engouement parce que c'est basé sur Pikachu, que tout le monde connaît depuis 20 ans, cette réalité augmentée, qui était... Comment dire ? Enfin, c'était très nouveau pour beaucoup de personnes qui se sont appropriées récemment, alors que finalement, on aurait dû déjà s'approprier ces technologies. Hein. Pour moi, ce phénomène, en fait, il est intéressant parce qu'il vient nous montrer cette sorte de nouvelle révolution dans nos mutations sociétales.
Antonio Casilli.
Le succès récent de Pokémon Go est le symptôme du fait que la rupture entre le réel et le virtuel est devenue caduque, est devenue impensable. Au fait, on n'est plus face au virtuel. On est face, au contraire, à une application qui est installée dans nos poches, dans nos téléphones mobiles, et qui nous permet, qui nous met face à l'injonction de sortir de chez nous, de pénétrer l'espace public, de se balader, de rencontrer d'autres personnes, de coopérer avec d'autres personnes, de travailler avec. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement
important.
Parce
que, pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, avant, c'était ou jeu réel, c'est-à-dire on joue au foot ou on joue à la marelle, ou alors on joue au virtuel, on joue chez soi, enfermé, devant son écran. Là, c'est un peu des deux. Il y a l'écran, mais il y a la rue.
Oui, voilà. Donc, justement, on est passé du vieux paradigme de la réalité virtuelle qui était détachée, soi-disant, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de débats dans la communauté scientifique, justement, pour s'opposer à ça. Détaché de la réalité quotidienne, on est passé à une situation qu'on appelle plutôt de la réalité augmentée. Donc, on est face à un espace bien matériel, bien quotidien, nos villes, nos maisons, nos rues, qui sont traversés par des flux de données, et ces données se manifestent sous la forme de ce petit monstre de poche, donc les Pokémon.
Bernard Stiegler, 75 millions de téléchargements en seulement 3 semaines, ça vous inspire quoi ?
C'est une réalité très très complexe, évidemment. Moi je pense que la chasse au trésor, qui est un petit peu le principe maintenant de ce jeu, est une forme de réenchantement tout à fait artificielle d'ailleurs, mais néanmoins vécu, je pense, par les enfants, mais pas seulement par les enfants, comme une sorte de réenchantement de l'espace, l'espace commun, l'espace ordinaire, si je puis dire, une réapparition de possibilités extraordinaires dans, dans l'espace ordinaire. Et c'est un dispositif qui se développe sur un arrière-plan qui est ce qu'on appelle la data economy, c'est l'exploitation de la production de nos traces par une industrialisation du virtuel. Ici, je voudrais faire une petite remarque sur ce que veut dire virtuel. Personnellement, je pense qu'il n'existe pas de forme de vie qui ne soit pas virtuelle. Parce que c'est ce que dit Bergson, la vie c'est d'abord ce qu'il y a de la mémoire, et la mémoire est toujours virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple circuler dans Paris parce que vous avez une mémoire virtuelle de la cartographie de Paris. Si vous allez dans l'Amazonie, vous survivrez pas deux jours en Amazonie. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la carte virtuelle de l'Amazonie que par contre les Indiens ont, mais si les Indiens viennent sur la place de la Concorde, ils finiront au commissariat de police le soir même. Ce que je veux dire par là, c'est que la nouveauté, c'est pas du tout qu'il y ait une virtualisation du territoire. Tous les territoires sont toujours virtuels. C'est parce qu'ils sont habités. Ce qui est nouveau, c'est l'exploitation industrielle de cela. Maintenant, par rapport à Pokémon Go, il faudrait essayer de comprendre quelles sont les intentions.
On va y revenir, Bernard voilà. Stiegler, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parte à Mulhouse, parce que sur la localisation notamment que vous évoquiez, il y a une question très concrète de Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
On vous écoute. Vous êtes un chasseur vous-même hein, de Pokémon depuis quelques jours.
Oui, depuis deux semaines déjà. Alors bonsoir à tous. J'aimerais poser une question vis-à-vis donc de la géolocalisation. J'aimerais savoir si Niantic et Pokémon, qui sont les développeurs du jeu, avaient une politique vis-à-vis de la géolocalisation et enfin de ce qu'ils font un peu de ce qu'on leur donne au final.
Cette fameuse base dont ouais. parlait il y a quelques secondes Bernard Stiegler. Qui veut répondre ?
Alors, c'est
Antonio Casilli.
Voilà, je me permets justement de porter quelques éléments de réponse et la, disons que la clé pour résoudre ce mystère de la géolocalisation chez Pokémon Go, chez le jeu Pokémon Go, bah c'est Google. Figurez-vous que l'entreprise qui a développé le jeu, qui s'appelle Niantic, est actuellement contrôlée par deux géants industriels. Le premier, on l'a cité, c'est Nintendo. Le deuxième, c'est Google. Et les cartes, c'est-à-dire la cartographie qui est derrière le jeu Pokémon Go, est basée sur un autre jeu qui était effectivement une alliance entre Niantic et Google et qui s'appelait Ingress, qui était justement le grand succès des jeux géolocalisés d'il y a quelques années et dans lequel, en gros, chaque utilisateur, en se baladant avec son smartphone, produisait des données et ces données, finalement, nourrissaient le service Google Earth et le service Google Street Map. Donc, en gros, chaque joueur de Ingress et davantage chaque joueur aujourd'hui de Pokémon Go produit de la data et cette data nourrit finalement les services de Google.
Donc dans il va bientôt falloir, je sais que c'est un sujet qui vous passionne Antonio Casilli, il va falloir rémunérer donc bientôt les joueurs de Pokémon Go.
Avec beaucoup de caution et de précaution, là je ne suis pas pour une rémunération à la pièce voire à la data, au contraire je pense que c'est un travail collectif que tout le monde est en train de réaliser et qu'il n'y a rien de plus collectif que de la donnée personnelle, surtout de la donnée géolocalisée, et que finalement l'économie d'un jeu comme Pokémon Go est liée strictement au traçage de chaque joueur. Et chaque traçage signifie aussi possibilité de ciblage publicitaire personnalisé. C'est-à-dire que chaque joueur, finalement, est connecté, son profil de joueur Pokémon Go est connecté à son profil Google, et donc Pokémon Go récupère aussi toutes nos données Google.
Georges nous appelle de Seven. Bonsoir Georges.
Bonsoir. Bonsoir et merci pour vos émissions. Donc voilà, moi je vais un peu dans le sens de tout ce qui vient de se dire. Je voudrais juste savoir quelles seront les limites d'un point de vue commercial en fait de l'outil. Moi, je pense qu'on peut se dégager du produit Pokémon, mais il y a l'outil qui est développé par Google Niantic. Et j'aimerais savoir quelles vont être les limites lorsque tous les Carrefour et autres grandes chaînes de distribution vont s'engouffrer dans cet outil et distribuer des tas de points de promotion un peu partout. En fait, c'est ce qui va arriver à tous les coups. On le voit bien venir. Donc je voudrais savoir comment Monsieur Schiller, vous invitez, voit cette limite, à quel moment ça va se limiter.
Voilà. Nos limites, Vanessa Lalo.
Je sais pas, enfin c'est difficile de prédire, et puis bon, en tant que psychologue, je peux pas vraiment forcément parler de ce type de choses. Ce que je vois bien, c'est que le marché est envahi de plus en plus là de McDonald's, Monoprix et autres enseignes qui font des produits dérivés, qui proposent d'aller finalement consommer dans leurs enseignes de plus en plus à cause des Pokéstop, enfin grâce aux Pokéstop, hein, les utilisateurs.
C'est-à-dire qu'on va manger dans cette chaîne là et on a des chances de trouver des Pokémon.
C'est pas forcément ça, c'est qu'on va se retrouver à aller prendre des potions magiques aux différents Pokéstop près des enseignes et qu'on va être incité quelque part inconsciemment à aller consommer dans ces mêmes enseignes. Ou Monoprix, ce qu'on a vu, c'était une affluence énorme de personnes qui venaient faire la queue pour aller chercher des packs de dresseurs de Pokémon avec des céréales gratuites, de l'eau gratuite, alors qu'avec une dizaine de lots, bon, ça vient poser des questions sur aussi ce qui va se passer dans notre société future.
Le virtuel, justement, est-ce que c'est une simple envie ou c'est un vrai besoin de changer la réalité, de la rendre, selon les cas, un peu plus pimentée, un peu plus colorée, un peu plus douce ?
Alors moi, je ne parle pas de virtuel, parce que pour moi, le virtuel, justement, n'existe pas, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, mais après, c'est des postures théoriques un peu différentes. Mais pour moi, le virtuel n'existe pas, et donc on assiste plus à ce que j'appellerais du numérique, enfin de la réalité dématérialisée, plus qu'à du virtuel. Moi, ce que je vois, c'est des balades hybrides, où finalement, on est dans le réel, dans le vrai réel, avec nos rencontres réelles, nos émotions réelles, notre enchantement, comme disait Bernard Stiegler, réel, mais avec une surcouche enrichie. Et j'appelle même pas ça de la réalité augmentée, moi, mais plutôt de la réalité alternative ou de la réalité hybride, puisqu'elle vient nous hybrider finalement entre plusieurs facettes de la réalité avec le prisme que l'on a bien envie d'avoir.
Le virtuel, ou disons donc le numérique, à vos yeux, Bernard Stiegler, c'est une fuite ? On fuit son quotidien, on fuit sa vérité ?
Non, je ne pense pas que c'est une fuite, c'est une transformation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit d'ailleurs. Hein, le virtuel, c'est avant tout le numérique, et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et le numérique, c'est ce qui est calculable. Donc c'est l'introduction du calcul dans tous nos comportements, absolument tous nos comportements, avec la possibilité d'exploiter donc des processus ludiques, par exemple, chez les enfants, mais aussi chez les adultes, qui sont souvent d'ailleurs très infantilisés, et essentiellement au service du marketing. Maintenant, je pense que c'est extrêmement dommage qu'il n'y ait pas, Antonio Cassilli, par exemple, travaille dans le domaine des humanités numériques. Moi-même, je suis aussi dans ce domaine, enfin, j'appelle ça plutôt les digital studies, mais peu importe. Il est très, très dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des initiatives de très grande ampleur, autres que commerciales, autres que marketing, pour exploiter toutes ces choses-là. En vérité, d'ailleurs, il y en a. J'ai un ami qui s'appelle Gerald Moore, à l'université de Durham, qui est en train de monter un très grand projet en utilisant Minecraft, mais pour mettre Minecraft au service non pas du marketing de Monoprix ou de je ne sais quoi, mais de la recherche scientifique, de l'archéologie, etc. Il y a énormément de choses positives à faire avec cela, mais ce qui est désastreux, c'est que la puissance publique a totalement abandonné toute ambition dans ce domaine, en considérant que c'était au marché de s'en emparer, ce qui est une calamité. Je crois, moi, que la société de demain, si la société est encore capable d'être une société de demain, ce qui n'est pas du tout garanti, en ce moment on a plutôt le sentiment qu'elle se défait, il y aura une société demain si elle est capable de redonner au numérique une véritable dimension civilisationnelle. Pour le moment, il est en train de détruire, en réduisant tout au calcul, les rapports sociaux, et c'est catastrophique.
Je voudrais vous citer quelques tweets qui nous arrivent. Paul nous explique que Pokémon Go et des amis virtuels, non, parce qu'on rencontre des dresseurs et c'est bien concret et c'est bien humain comme relation. Pascal nous dit que lire un livre, c'est aussi quelque chose de virtuel. Et Chris nous explique qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisqu'avant on collectionnait les vignettes Panini de notre enfance. C'est juste le support qui change. Et puis Sophie, par mail, est beaucoup plus critique vis-à-vis de Pokémon Go et du numérique. Le réenchantement du quotidien aux dépens du lien social, c'est absolument effrayant. Léo, depuis Bordeaux. Bonsoir Léo.
Oui, bonsoir.
Vous aviez une question toujours sur la localisation de ces petites bestioles qu'on cherche.
Exactement, une question qui se rapproche un peu plus du droit, puisque je me demande si la géolocalisation ne présente pas une occupation illégale du domaine public. à savoir qu'au même titre qu'un commerçant qui souhaite installer des chaises et des tables sur le domaine public doit payer une redevance à une collectivité, est-ce que toutes les collectivités du monde sur lesquelles on a une géolocalisation pourraient demander une redevance aux producteurs de ce jeu vidéo?
Je vais laisser Antonio Casilli vous répondre. Je voudrais juste compléter quand même en vous rappelant à quoi l'addiction peut nous mener. Il y a un soldat américain qui s'est mis à chasser un carapuce sur la ligne de front à Mossoul, en Irak. Il y a un Français insomniaque qui s'est retrouvé à traquer le Pokémon sur une base militaire en Indonésie. Évidemment, il s'est fait arrêter. Un Américain qui en a capturé un à l'intérieur du musée de l'Holocauste à Washington. Et puis plus près de nous, un automobiliste a oublié que chasser le Pokémon ou conduire, il fallait choisir. Et il est rentré dans un muret, pas de chance. C'était juste devant une patrouille de police et des exemples comme celui-ci. On en a encore quelques-uns. Antonio Casilli.
Disons que autant les remarques de Bernard Stiegler que les questions qui nous viennent de Twitter et des gens qui appellent finalement renvoient à un problème qui est le problème de la marchandisation du lien social qu'un jeu comme Pokémon Go met en place, réalise et finalement pousse à l'extrême. C'est une logique dans laquelle, en gros, chaque comportement, mais aussi chaque clic, mais aussi chaque interaction entre êtres humains, entre joueurs en l'occurrence, se transforme dans un data point, donc en gros dans un point, dans une base de données qui est exploitable à des fins commerciaux. Et ça, à mon avis, représente le problème principal. La captation d'une valeur produite parfois d'une manière implicite, parfois d'une manière, d'autres diraient inconsciente, par le joueur. Moi, je pense que le joueur est très conscient de produire de la valeur, mais qu'en même temps, il porte il met en évidence plutôt le côté ludique et de réalisation de soi. Or, le problème, surtout si on se pose la question de la redevance, voire de la reconnaissance sous forme, par exemple, de rémunération ou de rémunération collective de toute cette valeur qu'on produit, et ben là, on est face, effectivement, à une question de société qui est majeure, qui est principale. C'est-à-dire qu'on est, avec Pokémon Go, avec Niantic et avec les grands géants du numérique, comme Google et les autres GAFA, face à des systèmes qui sont basés sur une captation d'une valeur collectivement produite qui n'est pas reconnue ni rémunérée. Donc il faut trouver une manière d'avoir une reconnaissance sociale et économique.
Bernard Stiegler, vous vouliez répondre à Léo sur cette question de l'occupation du domaine public par Pokémon Go.
Oui, je pense que c'est une très très bonne question. C'est même la question dont il faut partir, à mon avis. Parce que qu'est-ce qu'on appelle le public ? Public, ça vient de... c'est ce qui est publié. Et ce qui a constitué l'espace public, c'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Vernant, c'est la publication de l'écriture alphabétique, le fait qu'on pouvait publier, par exemple, des arrêts de droit dès le 7e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce archaïque. Et c'est à partir de la publication de l'écriture, qui ensuite est devenue l'écriture imprimée au 16e siècle à la Renaissance, que se sont constituées les différentes formes de société. Et ensuite, les processus de publication d'un nouveau genre sont apparus avec la photographie, le cinéma, la télévision, la radio et maintenant le numérique et Internet. Et cette nouvelle forme de ces nouvelles formes de publication ont complètement fait exploser ce qu'on appelle l'espace public. Il était absolument fondamental aujourd'hui que le législateur se réempare de cette question. Sinon, nous sommes en train de détruire tout simplement la chose publique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la chose publique ? C'est la République, c'est la res publica. Et c'est pour ça que ça va très très mal. C'est parce que on sent que la puissance publique est totalement passive par rapport à ces questions, alors que l'activité du marketing est extrêmement active et est en train de se privatiser les processus de publication. Donc il faut absolument mener une politique dans ces domaines, non pas du tout en s'opposant à Pokémon Go, etc. Pokémon Go, c'est le résultat de l'absence de politique et le fait que la nature a horreur du vide, dit-on, le business aussi exploite le vide. Donc, et il s'en empare en remplaçant la puissance publique, c'est-à-dire ce que tout à l'heure une auditrice que vous citiez sur Twitter appelle la société, je crois, quand elle disait quelque chose d'horrible est en train de se produire, par quelque chose qui est effectivement pas du tout l'espace public, pas du tout la chose publique. Mais c'est à nous d'inventer des nouvelles politiques publiques pour pouvoir constituer un nouvel espace public avec les moyens de publication.
Mais est-ce que nous, simples citoyens, on a moyen de reprendre cet espace public en main et reprendre tout simplement nos vies en main, Vanessa Lalo?
Non, mais à travers des collectifs, bien sûr que oui, et je pense qu'il est absolument urgent maintenant que des collectifs, il en existe d'ailleurs déjà beaucoup aujourd'hui, passent à une vitesse supérieure, ce que j'appelle moi l'âge post-hacker, parce que je crois qu'il y a eu toute une époque que j'ai beaucoup suivie de très très, où j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs dans le monde hacker, où on le hacking consistait essentiellement à intervenir en cassant du code, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faille perdre cette culture-là, mais il faut aller au-delà de cela. Et il y a des collectifs qui existent, et il faut même s'emparer de ces jeux. C'est pour ça que tout à l'heure, je citais cet universitaire de Durham en Angleterre, qui s'empare de Minecraft pour faire vraiment des choses extrêmement intéressantes avec ses étudiants. Et quand je dis ça, c'est pas simplement le blabla qu'on entend régulièrement sur le fait que si on introduit des tablettes numériques à l'école, tout va s'arranger. C'est pas du tout ce que je crois.
Merci Bernard Stiegler. Je voulais qu'on écoute Vanessa Lalo.
En fait, là, il y a beaucoup de sujets différents qui sont abordés en même temps. Mais si on parle de la réappropriation de la cité, moi, je vois beaucoup de liens sociaux. En fait, j'observe énormément de personnes qui se rencontrent, qui sont menées à aller échanger les unes avec les autres. Beaucoup de groupes, en fait, de joueurs qui finalement se retrouvent ensemble, se rassemblent. Beaucoup d'amis qui, sur le prétexte de Pokémon, vont aller faire des pique-niques ou des Pokémonades, comme je les appelle, des promenades Pokémon. Pour moi, il y a une vraie réappropriation de la cité, au vrai sens du terme aussi, dans ce qu'on peut observer au niveau de Pokémon. Chaque Pokéstop, finalement, correspond à un centre d'intérêt public, à un monument, à une œuvre d'art. On est amené, finalement, à lever la tête de son smartphone et pas uniquement regarder ce qui se passe sur le trottoir, mais à chercher aussi des yeux, tel monument, telle statue, tel graphisme, tel street art. Et ça nous ouvre aussi, potentiellement, sur d'autres champs, de réappropriation aussi du patrimoine, de la culture, en termes de transmission.
C'est à ça que sert Pokémon Go, parce qu'il y a une question très intéressante de Roland qui vit en Bretagne. Il nous dit pas comment on joue à ce jeu, ça on a donné un peu les règles depuis le début de l'émission, mais il nous dit très simplement, mais ça sert à quoi ce jeu?
Alors, pour revenir sur le terme de hacking dont Bernard Stiegler, qui est employé tout à l'heure, pour moi on hack la réalité, on détourne la réalité aujourd'hui à travers Pokémon justement pour se la réapproprier autrement. On peut se la réapproprier avec de la transmission transgénérationnelle, emmener ses enfants en Pokémonade et leur faire part justement de ce que l'on a comme connaissance historique sur tel ou tel lieu, leur faire se poser des questions. L'un surveille qu'aucune voiture n'arrive, l'autre capture des Pokémon. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre cherche sur Internet les faits historiques associés à tel ou tel lieu. On peut aussi finalement se servir de Pokémon Go comme un outil de médiation numérique, de médiation éducative. On peut s'en servir pour tirer des fils sur les apprentissages, apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à mettre en place des stratégies. Capturer les Pokémon, c'est de la précision psychomotrice. Finalement, on peut y voir aussi énormément de choses très positives selon le regard que l'on peut y porter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et on va essayer de répondre, s'il vous plaît, madame, messieurs, un tout petit peu plus rapidement aux auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler ce soir, comme Olivier en Bretagne. Bonsoir Olivier.
Oui, bonjour. Effectivement, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être très rapide. En fait, alors d'une part, j'aurais voulu poser la... C'est pas des questions, c'est vraiment des phénomènes. C'est qu'en fait, quand on parle de gratuitiel ou de logiciel gratuit, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'en fait, rien n'est gratuit. À chaque fois, il y a des publicités, que ce soit sur Android ou quel que soit le logiciel que l'on utilisera sur Windows. D'autre part, donc, ça amène à la phase des logiciels privés versus les logiciels dits de type Ubuntu. Et donc, quand est-ce que la récupération des données est effectuée? Troisièmement, les jeux vidéo sont une part conséquente de notre réalité maintenant, même si elle est virtuelle. Mais,
la communication devient de plus en plus virtuelle elle-même, puisque on est en train de vous perdre, Olivier.
Vous m'entendez pas?
Ça y est, on vous entend un tout petit peu mieux.
Ah, d'accord, je dois me lever en fait. Je dois me lever.
S'il vous plaît.
Donc je parlais des gratuitiels et des logiciels, parce que, en fait, vous avez entendu à propos de ça?
Oui, jusque-là, oui.
D'accord. Donc, moi, je pensais que les logiciels privés étaient souvent récupérateurs de données et pas forcément récupérateurs et productifs en termes de technologie. Et que les jeux vidéo ne sont pas forcément mauvais en soi. Moi, j'ai, comme je disais à votre la personne qui m'a répondu, j'ai sauvé 1000 princesses, 40 millions de personnes, et j'ai tué 2000 monstres depuis mes 15 ans en 1994, un truc comme ça.
Donc vous avez été utile à la société.
Non, pas à la société, mais c'est valorisant, vous voyez. C'est valorisant,
c'est important,
pour une part
ce que
de
vous
la
dites,
société
Olivier,
qui.
Ouais.
pour une part de la société qui ne se sent pas valorisée forcément dans son travail et qui à la fin de la journée, voilà. Du coup, mais dans ce terme de votre truc sur les Pokémon là que je connais pas trop, c'est l'utilisation privée des données. Et c'est ça en fait, c'est que la technologie privée face à la technologie qui est de l'openware, c'est ça en fait le vrai problème. C'est pas une histoire que est-ce que c'est bien ou mal, c'est qui le fait. Qui le...
Antonio Casilli a l'air d'accord avec vous. Rapidement, est-ce que
je
vous
suis d'accord avec vous, et en même temps, je propose vraiment de faire une opération de écologie sémantique. Arrêtons de parler de virtuel, arrêtons de parler même de logiciel, parlons de plateformes numériques et admettons aussi que ces plateformes numériques sont basées sur un principe qui est de la fausse gratuité. En gros, une application comme Pokémon Go peut-être gratuite pour la personne qui télécharge l'application et qui ne paye rien, mais de l'autre côté, il y a des annonceurs qui payent pour faire de la pub ou pour placer des Pokéstop en proximité de leur enseigne ou de leurs locaux. Or, de ce point de vue-là, il y a toujours quelqu'un qui paye, et si vous ne payez pas en déboursant de l'argent... Alors d'ailleurs, on le fait dans Pokémon Go parce qu'on achète des Poképièces, c'est-à-dire on achète de l'argent virtuel, là... Mais vous le faites parfois en payant avec vos données.
Et Thierry de Lyon a une idée là-dessus. Bonsoir Thierry.
Bonsoir, oui. Je ne sais pas si j'ai une idée, mais enfin, j'ai une question.
Une proposition, une question.
Une proposition, oui. Voilà, donc je suis médecin psychiatre auprès de jeunes adolescents et de jeunes adultes dans une unité hospitalière près de Lyon. Et bon, nous avons évidemment des cas assez complexes. On va pas dire d'addiction au numérique, mais disons de jeunes adolescents qui préfèrent exercer, expérimenter leur subjectivité dans le champ des ordinateurs plutôt que dans le champ social, on va dire. Donc ils se retrouvent souvent dans des positions complexes, de véritables addictions. Ils passent jour et nuit devant leur ordinateur. Voilà, ce qui s'est passé récemment, c'est que nous avons découvert que certaines personnes se déplaçaient au sein de l'établissement, venant de l'extérieur, pour chercher des Pokémon presque jusque dans les services. Donc je me demande s'il est possible de sanctuariser les lieux de soins pour que ces zones restent des lieux où soit épargnée en partie la population souffrante. Voilà.
Antonio Casilli, est-ce que techniquement c'est envisageable? Est-ce que commercialement c'est envisageable?
Alors, je pense que ce qui est envisageable est vraiment de prendre aussi une position plus en général. Une position de reconnaître qu'il y a un besoin de développer des collectivités au niveau de la société civile qui sont capables de créer des espaces qui ne soient pas appropriables par des systèmes commerciaux de traçage via la data. Après, la question autant de l'addiction que la prise en charge d'un point de vue clinique, bon, ça c'est plutôt une question, serait plutôt une question pour Vanessa Lalo. Et donc, je pense que là, c'est vraiment une question qui se situe à un autre niveau.
Bernard Stiegler, sur la limitation.
Alors, moi, je voulais réagir d'abord sur souligner le fait que, malheureusement, je n'ai pas noté le nom de la personne, mais bon, voilà, ce médecin psychiatre.
Thierry qui nous appelait de Lyon.
Souligne un point très important, c'est qu'il y a une pathologie qui est très très croissante en ce moment, pas simplement des jeux vidéo, mais d'une façon plus générale de l'addiction au virtuel ou au numérique, et de l'addiction en général, puisque aujourd'hui on est dans un marketing addictif qui exploite les processus d'addiction. Il est très important d'avoir bien conscience du fait que quand des entreprises s'engagent, très grosses entreprises comme Google et Nintendo, sur des capitalisations de cette échelle-là, c'est qu'il y a derrière des enjeux de prise de contrôle des psychismes, en quelque sorte, à travers cela. Et ces prises de contrôle des psychismes peuvent être extrêmement toxiques. J'ai bien entendu ce que disait Vanessa tout à l'heure, et je suis d'ailleurs d'accord avec ce qu'elle disait, puisque je soulignais moi-même la possibilité de travailler avec des jeux vidéo pour faire des choses intéressantes. Mais il faut absolument dire à la... dans l'espace public, qu'il y a des enjeux de santé publique derrière tout cela, qu'il est absolument fondamental qu'avec ces technologies qui sont toujours à la fois porteuses de promesses et porteuses d'aliénation et de processus de contrôle, il faut des politiques, des thérapeutiques et des visions culturelles de tout cela qui aujourd'hui font gravement défaut.
Vanessa Lalo.
Alors, on parle beaucoup d'addiction aux jeux vidéo et aux usages numériques. Moi, ça me pose beaucoup de problèmes, puisque finalement, je défends la position qui dit qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans, au numérique, aux jeux vidéo. Il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. On voit des comportements très excessifs. On voit effectivement des comportements qui peuvent être outranciers, mais c'est de l'excès en termes de comportement. Ce n'est pas ça, l'addiction au sens psychiatrique du terme. On est plus dans des comportements compulsifs. On va compulsivement aller collectionner du Pokémon. On va compulsivement vouloir avoir des points de gratification dans des jeux vidéo. On va compulsivement aller vérifier qu'on n'a pas des notifications sur Facebook. Mais à chaque fois, ça vient refléter et signifier quelque chose de notre malaise, de notre souffrance, de nos fantasmes, de nos idéaux. Celui qui a peur d'être coupé du lien social, celui qui est phobique social et qui a peur d'être en relation directe en dehors de l'écran, celui qui a peur de se confronter à de la réalité, à des échecs, à sa frustration. À chaque fois, ça vient dire quelque chose de très significatif de chaque personne. On ne peut pas parler d'addiction de manière générale. Comme ça, pour moi, c'est un terme qui est très galvaudé, qui est vraiment médiatique. Hein, c'est plus des excès que l'on va voir. Exactement comme toutes ces personnes qui vont aller chercher des Pokémon sur les lieux de la Shoah, ça pose des grosses difficultés. Mais bon, enfin, c'est pas le Pokémon qui crée ça. C'est pas le jeu et ni la technologie qui crée ça. C'est que la personne, en tant que telle, qui s'adonne à ce type de comportement-là, est en excès, n'a pas mis les limites qu'il fallait et elle aurait dépassé ces limites-là n'importe où.
Plus que 10 minutes d'émission, donc on va essayer de faire très très vite parce qu'il y a du monde au standard. Sébastien, question extrêmement précise. Cette histoire des données, c'est ce qui vous passionne ce soir. Hein. Bonsoir, vous nous appelez de Strasbourg.
Oui, bonsoir. Oui, c'était concernant ce contrat qui lie tous les joueurs à travers le monde et qui a un point qui me paraissait un peu exagéré. C'était concernant l'autorisation des données qu'on fait à Niantic. Et donc, ça serait une autorisation qu'on donne de manière perpétuelle, universelle, irrévocable, à titre gracieux, et une utilisation des données qui puisse ensuite être exposée de manière publique, et tout ça est écrit noir sur blanc.
Vrai problème.
Je voulais savoir ce que ça engageait d'avoir des mots aussi importants et aussi puissant dans un contrat.
Perpétuel, irrévocable. C'est vrai que ça fait peur quand on entend ça, Antonio Casi.
Et en même temps, si on réfléchit aux conditions générales d'utilisation d'un service comme Facebook, chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous, ont signé implicitement ou explicitement, d'ailleurs, ce contrat il y a plusieurs années. Et il y avait exactement les mêmes termes. Or, la question, à mon avis, est d'une part ce qui est écrit dans ces contrats, et c'est problématique, on est d'accord. Mais de l'autre côté, qu'il ne faut jamais laisser tomber la vigilance citoyenne sur ce type d'expropriation des données. Et de ce point de vue-là, justement, on a du marge de manœuvre. Enfin, et la marge de manœuvre est représentée par le fait qu'il y a déjà des collectivités, voire des institutions, qui se mettent en place pour dénoncer ces termes. Et, par exemple, les associations des consommateurs allemandes qui ont lancé une action en justice contre Niantic. Ou, par exemple, le Sénat américain qui a ouvert une enquête, ou par exemple la CNIL et ASCI française qui ont lancé des mises en garde très précises.
Pour l'instant, on parle beaucoup du lien que peut créer Pokémon Go. Le cas inverse également dans les familles. Jacques nous appelle de Vendée. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir France Inter.
Le lien se détruit chez vous. À cause de ça.
C'est-à-dire que la question que je me posais en vous écoutant, et votre émission est passionnante, c'est que je me souvenais de, à 78 ans, près bientôt, je me souviens de mon enfance. Et on jouait au Monopoly, on faisait des dames, des parties de dames, on jouait aux échecs, on jouait à des jeux de cartes, on jouait en groupe. Et dans ces groupes, il y avait aussi bien des adultes que des enfants, que des adolescents. Et c'est la question que je me pose. Il me semble que l'on va de plus en plus vers des solitudes dans la société. On ne pose pas la part de notre responsabilité ici-bas. Hein, ça paraît un peu idiot ce que je dis, mais je pense à Albert Mangel, je pense à des gens comme ça, qui ont posé toutes ces questions parce qu'ils sont dans des démarches où la curiosité, elle est avec les autres. On ne peut pas être seul dans ce monde.
Vanessa Lalo, on peut chasser le Pokémon tout seul quand même. On n'est pas obligé d'aller vers l'autre.
Moi, je trouve que c'est difficile aujourd'hui d'être seul avec tous les outils d'interconnexion. Je trouve que c'est un vrai choix aujourd'hui d'être tout seul. On peut à chaque fois trouver quelqu'un qui est aussi fou que nous à l'autre bout de la planète. Et donc, finalement, ça remet en question aussi la folie. Qu'est-ce que la folie si elle est partagée? Enfin, ça vient
mais
poser beaucoup de questions.
Son père et son grand-père, c'est quand même difficile d'aller chasser le
Pokémon.
Mais
ça, c'est des questions de posture, en fait. On est quand même dans du lien intergénérationnel très, très fort. Tous les grands-parents connaissent Pikachu, peuvent emmener leurs petits-enfants faire des promenades alors qu'ils voulaient pas forcément sortir de chez eux, qui restaient enfermés avec leurs jeux vidéo à la maison. Il faut savoir, effectivement, la grosse blague sur Internet en ce moment, c'est avant, en 90, on disait aux enfants, allez, arrête avec tes Pokémon, va dans la rue, et maintenant, c'est allez, rentre de la rue, viens à la maison. Donc, il faut savoir un petit peu comment on se positionne. À chaque fois, on critique dès qu'il y a un nouvel objet technologique qui émerge. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a un changement de transmission qui s'opère en ce moment. On voit bien qu'on n'est plus magistral avec une transmission verticale. Tout s'horizontalise, on collabore tous, on est tous dans du partage, dans du lien comme ça, qui se créent de manière très parcellaire par moment, mais qui sont des leviers pour nous. Et c'est des bonnes valeurs, des jolies valeurs de partage. Et je pense que si on se met à la position de ces enfants ou de ces petits-enfants, il n'y a aucune difficulté pour rentrer en lien. Au contraire, on recrée du dialogue grâce à des outils comme Pokémon.
Pokémon Go, créateur de liens. Bernard Stiegler.
Alors, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on ne tombe pas dans l'éternel travers qui est de dire il y a les technophiles qui trouvent que c'est très bien la technologie et que ça va porter des tas de solutions à tous les problèmes, et les technophobes qui disent ah avant c'était beaucoup mieux, etc. Sortons de ça, on peut plus se permettre de faire ce genre de choses. Nous avons tous vu comment dans les années 90 avec Internet et surtout le web, nous avons cru et nous croyons encore, moi je crois beaucoup encore aux possibilités que le web et l'internet créent des nouvelles formes d'action collective, des nouvelles intelligences collectives, etc. Mais il ne faut pas dénier les problèmes que cela pose. Les problèmes que cela pose, être relié avec quelqu'un par internet, c'est une forme de solitude. Ce n'est pas du tout en tout cas le même type de relation qu'une relation en vis-à-vis. Et maintenant, ce qui est très important dans tout cela, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Et on a parlé de désintermédiation lorsqu'on a dit que le commerce électronique allait, par exemple, court-circuiter aujourd'hui avec Amazon et tout cela, la médiation des commerçants traditionnels. Aujourd'hui, c'est la désintermédiation de l'espace familial. Et donc, à travers tous ces processus qui sont soumis à des algorithmes et qui sont calculés en temps réel 4 millions de fois plus vite que nous, et il faut regarder les choses très précisément, il ne faut pas balancer des généralités comme ça. Je signale à Vanessa qu'il y a quand même plusieurs centres en France d'addiction l'addiction sans drogue dans des hôpitaux psychiatriques qui sont dirigés par des psychiatres.
Ils sont payés par qui ?
Des amis à moi. Donc il ne faut pas balancer comme ça que ça n'existe pas l'addiction, c'est archi faux de dire ça.
Pas.
Et c'est une position que vous avez, vous pouvez la défendre, mais vous ne pouvez pas dire comme ça que ce problème n'existe pas. C'est un problème, par exemple, à l'hôpital de Nantes, au CHU, il y a un service entier qui s'est développé sur les addictions sans drogue, et aujourd'hui, l'essentiel du sujet, c'est le numérique. Donc il faut arrêter de balancer des affirmations comme ça. Il est tout à fait évident que toutes ces réalités sont complexes, il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, ni du côté de Pokémon Go, ce n'est pas des méchants, ce n'est pas non plus des gentils, il faut être lucide. Et il faut être critique. Il ne faut pas critiquer au sens de rejeter, mais il faut être critique. Il faut avoir un peu d'esprit critique, parce que sinon, je me demande où l'on va.
Bernard
Stiegler. Si on n'est pas capable de prendre la mesure des limites des choses.
Je souhaiterais entendre Sébastien, son témoignage, dans un village du Cher. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Donc en fait, oui, c'est juste un témoignage où tout d'abord, j'ai vu le côté fulgurant un peu de ce phénomène. Hein. Et dans ce petit village où il y a rien, il n'y a pas de lieu d'échange, il n'y a pas de café, il n'y a rien du tout. J'ai vu des jeunes adultes, des ados qui se baladent, qui se rencontrent, qui discutent en indiquant des lieux où il y a des Pokémon. Alors que au moins, Pokémon Go a permis ça. Même si ça reste un jeu de réseau, je trouve ça intéressant quoi, pour des petits villages comme nous.
Merci de nous avoir appelé, Sébastien. Et cette question de Christophe, qui nous arrive par mail, Pokémon Go, est-ce que ça va vraiment durer? Dans 6 mois, on en reparle, mais c'est une étape de plus vers un nouveau monde. On en est où dans 6 mois avec Pokémon Go, Vanessa Lalo?
Bon, alors, on n'est pas tous d'accord sur les prédictions. Moi, je dirais plus que vers septembre-octobre, on va avoir quand même une grosse baisse des utilisateurs, puisque les enfants vont reprendre l'école, les universitaires aussi. Voilà, tout le monde va reprendre un peu sa vie. Moi, je vois plus une appropriation de cette nouvelle technologie, entre guillemets nouvelle, qui est la réalité augmentée et les réalités alternatives. Je vois qu'on va plus se diriger vers peut-être des propositions d'usage responsable, des propositions de nouveaux types d'usage pour se balader avec son téléphone et regarder le Louvre en réalité enrichie et aller vers des contenus. Voilà. Reconnaître les plantes, les fleurs dans ces jardins. Les parents qui sont contre Pokémon peuvent aussi utiliser de la technologie avec leurs enfants et faire du lien, encore une fois, transgénérationnel pour être dans la transmission, pour leur apporter aussi d'autres angles en utilisant le numérique qui n'est pas toujours mal. Et je ne dis pas que le numérique est bon tout le temps. Hein. Pour moi, le numérique n'est pas automatique. Mais ce que je trouve génial avec Pokémon, c'est que ça vient enfin mettre au devant de la scène les problèmes de prévention, les problèmes de limites qui n'ont pas été mises, les problèmes de nouvelles technologies, de data, et de tout ce qu'on va faire finalement à partir de demain. Pour moi, ça vient vraiment refléter en fait notre société, ça vient refléter de la géopolitique, ça vient refléter des conflits politiques, ça vient refléter énormément de choses que l'on est. Donc au lieu de pointer du doigt le jeu, je pense que c'est plutôt intéressant de voir ce que ça reflète de nous et de pouvoir faire de la vraie prévention.
Antonio Casilli.
Alors, personnellement...
En 15 secondes.
Oui, 15 secondes. Il y a deux possibilités. Ou Pokémon Go va être le jeu de l'été, comme il y a le tube de l'été. Ou, et ça c'est ma position à moi, il est parti pour rester avec nous longtemps. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la structure même du jeu. Finalement, pour terminer ce jeu, pour passer au dernier niveau, vous devez être passé par 400 000 Pokéstop. C'est un travail d'envergure et qui s'inscrit dans la durée.
Une belle collection.
Et deuxième chose, qu'il y a aussi des articulations très fortes entre Google et qui a beaucoup investi dans ce jeu.
Fin de partie. Game over, merci pour vos messages, vos appels. Si vous souhaitez réécouter ce téléphone sonne, vous trouverez l'émission sur le site franceinter.fr. Merci à vous Vanessa Lalo, Antonio Casilli et Bernard Stiegler de nous avoir permis de mettre ou de remettre notre cerveau en ébullition, de nous interroger sur ce que notre société est en train de devenir. Tiens Bernard Stiegler, je signale la parution de votre dernier ouvrage, Dans la disruption, comment ne pas devenir fou. Vous nous en avez donné quelques pistes ce soir et c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Jérémy Younes, Marie-Claude Malartic et Octavie Morel m'ont aidé à préparer cette émission. Antoine Gomez était à la technique. Demain, tout autre sujet, vos questions sur les impôts bientôt prélevés à la source. Vous êtes sur France Inter, je vous souhaite une très belle soirée. Il est 20h.